Au quotidien, avec Hélène Denis.
Juin, salut TQ, on se reverra le 25 juin. Oui, je fais une adaptation de la chanson de Beaudemont, je sais bien qu'on
parle. Le Noël des campeurs, oui. C'est juste dans un mois. Là.
Oui, ça s'en vient, hein? C'est en juillet, je pense.
C'était le 25 juillet.
Ah, c'est le 25 juillet.
Oui, tout
OK.
À fait.
Bon, alors c'est le 23, le chiffre 23 qui m'inspire ce matin. Demain, on sera en congé. Ce sera le 24.
Voilà.
C'est férié et nous serons de retour le jeudi 25. Ça va, Mathieu?
Très bien.
Est-ce que vous avez pensé à votre fête nationale? Est-ce que vous allez fêter ça en solo, en duo, en famille, entre amis, dans un parc, à la maison?
Je pense que je vais me refaire l'intégralité de Richard Desjardins.
Ah, beau projet!
Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté tous ses albums. Je pense que je vais partir du premier jusqu'à son plus récent.
Oui, oui, oui. C'est une bonne idée.
Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais... J'ai une journée.
Un marathon Richard Desjardins. Ouais. Richard Desjardins, dont on entend parler de ces temps-ci, puisqu'il donnera un concert à Rouyn-Noranda et aussi à Montréal à l'automne au Club Soda. On aura l'occasion d'en reparler. Et vous, bonjour André.
Bonjour Hélène.
André Lacombe, est-ce que vous fêtez ça, vous, la fête nationale à Saint-Jean?
C'est variable d'une année à l'autre.
Un petit hot dog, ce barbecue en écoutant du Paul Piché.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, oui. On part quelques jours pour Québec, donc demain, je serai plus dans les préparatifs.
OK, voilà. Si j'avais les ailes d'un ange.
Je partirais pour Québec.
C'est ce que vous allez faire.
Voilà.
Chanceux. Ça va se passer ce soir sur les plaines d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, le spectacle avait été annulé.
Oui, à cause de la pluie.
Oui, surtout à cause des orages électriques.
Oui.
Parce que quand il y a de l'électricité dans l'air, ce genre d'électricité-là, on annule.
Oui, exact.
Oui, mais là, les probabilités de pluie sont là. Mais quand même, je suis certaine que le spectacle va avoir lieu parce qu'il va faire beau. Le beau temps va prendre sa
triompher,
place.
Enfin.
Ah oui, certainement. Et donc, aujourd'hui, André, vous allez nous parler de mots, M-O-T-S, et d'expressions d'origine étrangère.
D'origine étrangère, c'est ça, des mots, des expressions, une interjection, puis en prime, si on a le temps, un nom composé, tout mignon,
OK. Alors, un exemple, la Vespasienne, ça
la
vient d'où ça? Et Bayou Corneille, ça nous arrive tous et toutes.
Ah oui.
Bon, bien, moi, je suis en forme avec un bon café, là. C'est Mathieu qui l'a fait ce matin pour faire changement, hein, Mathieu? Un bon café fort. Et ça fait du bien par où ça passe. Qu'est-ce qu'on aura à part André des chansons québécoises, puisque c'est la veille de la fête nationale, alors ce sera 100% chansons québécoises aujourd'hui. Bon, on est pas mal chansons québécoises à longueur d'année. On fait quelques exceptions, mais on privilégie la francophonie et les chansons du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura, oui, une rencontre. Ce sera via téléphone, là, par le téléphone, cette entrevue, mais j'ai bien hâte de parler à un musicologue qui s'appelle Danick Trottier et qui a écrit un livre qui vient de sortir intitulé « Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'harmonium ». C'est un ouvrage universitaire, mais bien vulgarisé sur le phénomène harmonium et aussi sur le phénomène Serge Fiori. Serge Fiori qui nous quittait il y a un an. Ce sera demain le premier anniversaire de sa mort. Alors, Danick Trottier sera avec nous pour la dernière demi-heure de l'émission. Nous aurons la chronique économie avec Michel Poitvin qui parle aujourd'hui d'inflation et de l'introduction de SpaceX en bourse. On en a parlé la semaine dernière, mais Michel n'a pas eu le temps d'en parler lui-même. Donc, il nous dressera sa manière de penser là-dessus. Et c'est pas mal ça. Alors, on va commencer avec, on parlait des plaines d'Abraham. Il sera en spectacle ce soir. Si ça vous intéresse, le spectacle est présenté à Télé-Québec, à la télévision ce soir, à compter de 21h30. Et on y va avec Lou-Adriane Cassidy.
Jamais tout à fait, jamais tout à fait, jamais.
Adrienne Cassidy et sa chanson « Jamais tout à fait ».
La nouvelle est à la une de plusieurs journaux, de tous les journaux montréalais. Fusillade à Montréal, un cauchemar, dit Fadi Daguerre. Un policier du service de police de la ville de Montréal, un citoyen et un suspect ont été tués lors d'une fusillade survenue lundi midi dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Une autre policière a été blessée, mais l'on ne craint plus pour sa vie, a indiqué en conférence de presse le directeur du SPVM, Fadi Daguerre. Pour ce dernier, la situation est plus que terrible, c'est un drame et un cauchemar. Aujourd'hui, un des nôtres est tombé afin d'accomplir sa mission, protéger et servir. L'agent décédé est Mohamed Lamine Ben Ridouane. Le jeune policier de 34 ans était à l'emploi du SPVM depuis 2021. Son décès est une grande perte pour notre organisation. Son sens du devoir, son dévouement et son professionnalisme resteront pour toujours dans nos mémoires, a exprimé lundi soir le SPVM par voie de communiqué. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes a pour sa part rendu hommage aux citoyens décédés dans une publication sur Facebook. Le Centre pleure la perte tragique de Michael Mizrahi, un membre bien-aimé de la communauté juive de Montréal, victime innocente des événements. Et puis, à la une de la presse plus, cauchemar. On parle de cette fusillade. Le tireur qui a semé la mort à Montréal lundi s'était installé à la fenêtre d'un hôtel avec une carabine de précision, munie d'une lunette de visée, juste en face des bureaux de la société propriétaire du site Pornhub. Puis il a tiré. Plusieurs fenêtres de l'immeuble ont volé en éclats. La police étudie l'hypothèse selon laquelle l'homme aurait délibérément ciblé l'entreprise. L'assaillant est ensuite descendu au niveau de la rue. L'attaque a coûté la vie à 3 personnes, un policier, le suspect et un commerçant atteint mortellement lorsque la police a répliqué. Dans un manifeste de 105 pages envoyé à plusieurs médias et qui est attribué au tueur, l'homme originaire de l'Alberta appelait à attaquer une longue liste de cibles qu'il accuse de profiter de l'ordre social actuel, dont les sièges sociaux des entreprises internationales de pornographie. Une des théories de la police est que l'homme soit venu à Montréal dans le dessein de viser Pornhub. Selon ce qu'ont confié à la presse 3 sources proches de l'enquête qui ne sont pas autorisées à parler publiquement. La dénonciation de la pornographie occupe une place importante dans le réquisitoire de l'assaillant, qui semble inspiré de l'idéologie incel. En français, on pourrait traduire par célibataire involontaire. Il nomme plusieurs autres cibles, dont les chirurgies plastiques, les banquiers, les promoteurs immobiliers, les politiciens libéraux ou conservateurs et ce qu'il appelle les mâles alpha. Hello, maison mère de Pornhub, a refusé de commenter cette information en raison de l'enquête policière en cours. Et puis, à la une du Journal de Montréal, venu de l'Ouest pour tuer, le tireur avait écrit un manifeste s'attaquant aux femmes, onde de choc partout au Québec. L'assassin que l'on voit à la une du Journal de Montréal dans une séquence vidéo a glacé le sang, a parcouru la route de l'Alberta jusqu'à Montréal pour y commettre l'irréparable.
Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec de la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop. Au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. Essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit de nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussière, qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde.
Les Cowboys fringants et leur chanson « Sur mon épaule ».
Oui, la belle voix réconfortante du très regretté Carl Tremblay. André, allons-y avec les mots et les expressions. Vous commencez avec quelques mots d'origine étrangère.
Un mot relié au transport, pour commencer, le ballast. Mot utilisé en français depuis la fin du Moyen Âge.
Est-ce qu'il y a des roues là-dessus?
Non, il n'y a pas de roues là-dessus. C'est un poids, le ballast.
Ah bon?
Ça désignait le lest des navires qui alors était composé de gravier et de cailloux. En fait, tout ce qu'on met pour donner du poids
quand
il y a passé de marchandises. Ça trouve son origine dans le mot scandinave « barlast ». Il est composé de « bar » qui veut dire « nu »,« simple », et « last » pour désigner une charge. « Last » en passant qui est devenu « lest » avec le temps.
Oui, donner du lest.
Ouais. Donc, littéralement, on pourrait le traduire en disant une charge inutile, mais c'est par opposition à la marchandise qui, elle, désignait la charge utile. Donc, c'est le sens originel. De nos jours, les navires, bien évidemment, s'ils n'utilisent plus du gravier et des cailloux, ils utilisent des réservoirs d'eau pour assurer l'équilibre, la stabilité puis l'immersion du navire. Puis malheureusement, c'est une pratique qui est à l'origine de l'introduction de plusieurs espèces envahissantes. On peut penser au Grand Lac avec la moule zébrée dans les années 80. Et il y en a plein d'autres comme ça. On remplit d'eau à l'autre bout de la planète, puis on vide ça, rendu ici, et on introduit comme ça un peu partout au travers de la planète des espèces envahissantes. Donc, le nom ballast, en passant, c'est aussi utilisé dans le domaine des chemins de fer pour nommer la couche de pierre concassée qu'on place sous les rails, qui amortit le poids des trains, puis qui draine l'eau sous les rails.
Zénith.
Voilà pour le ballast. Le zénith, on passe à l'astronomie. Autre mot qui a été introduit au Moyen Âge et qui indique le point de la sphère céleste qui est situé verticalement au-dessus de l'observateur. Au sens figuré, le zénith, on dit, c'est aussi le point culminant, le sommet de la gloire, d'une carrière. On peut dire, par exemple, être au zénith de son art ou être au sommet de son art.
Ça a vraiment un lien avec l'émission, le titre de l'émission animé par Véronique Cloutier.
Oui, exactement. D'origine arabe, le mot « zénith », il résulte d'une suite de transformations, mais aussi d'une erreur de transcription, vous allez voir. Alors, ça commence avec le terme arabe « samt al-raz », qui veut dire « le chemin au-dessus de la tête ». Et en français, on a tout simplement passé à « samt », on a laissé tomber « al-raz ». Ensuite, « semt » au lieu de « samt » et « zemt ». Et « zemt », suite à une erreur de transcription, devient « zénith ».
Ah, oui.
On dit mauvaise lecture, erreur de transcription, en fait, dans cet ordre d'idées-là.
L'erreur peut être créative.
Voilà.
Créatif.
Ça fait penser aux expériences.
Une erreur. Merci.
Ça fait penser des fois aux expériences où on découvre des choses qu'on ne pensait pas découvrir à l'origine.
Oui.
Alors,
comme la tarte tatin.
Un peu le même phénomène. Voilà. À l'opposé du zénith, on parle du nadir, qui correspond au point de la sphère céleste qui est situé directement sous les pieds de l'observateur, complètement à l'autre extrémité de l'axe. Au sens figuré, c'est pas très utilisé, mais le nadir, ça représente le point le plus bas ou le pire moment d'une situation. Par exemple, on peut parler du nadir d'une crise. C'est rare qu'on dise ça, mais ce serait tout à fait
comment
approprié.
Comment ça va? Je viens d'atteindre le nadir. Là.
Voilà.
Je remonte vers le zénith.
Le chemin est long entre les deux quand même. Alors, nadir est aussi d'origine arabe. Ça vient de nazir az-samt, qui signifie direction opposée par rapport au zénith. Et avec le temps, seul nazir a été conservé, nazir qui est devenu nadir. Tout simple ça.
Et on termine ce volet avec un mot peu utilisé au Québec.
Oui, davantage en France, par exemple, la Vespasienne, familièrement appelée pissotière.
Ah, c'est moins joli.
Les Français disent ça. C'est un urinoir public pour hommes à l'origine. Maintenant, on a élargi le sens. Là, mais urinoir public pour hommes, généralement aménagé sur la voie publique ou dans des parcs. Je suis allé à Paris l'automne dernier. Je peux vous dire que des Vespasiennes, il y en a beaucoup encore.
Vous avez fréquenté les pissotières?
Oui, très pratique. Très, très pratique. À Montréal, on aimerait ça, des fois, avoir un peu plus de
Vespasiennes.
Mais savez-vous qu'à Montréal, justement, au début des années 30, on avait les Caméliennes.
Ah oui, ouais. En lien avec un maire hein, de Montréal.
Camélien Wood, qui avait fait ériger plusieurs édicules qui abritaient, dans ce cas-ci, des toilettes publiques complètes, en partie souterraines.
Je ne sais pas si ça y a fait plaisir hein, qu'on appelle ces toilettes-là des Caméliennes.
Je pense que c'était beaucoup en dérision à l'époque. Alors, est-ce qu'il y avait le sens de l'humour, j'espère, pour lui? Au fil du temps, la plupart de ces installations ont été démantelées, mais il y a des structures qui existent toujours, comme celle du Carré Saint-Louis, qui a été transformée en petit casse-croûte.
Ah, une toilette est devenue un casse-croûte.
Près de, en gagnant Prince Arthur, si ça vous dit quelque chose. Là, c'est, on voit vraiment que c'est quelque chose
d'époque. Oui, Mathieu, qu'est-ce que vous alliez dire?
J'allais dire c'est près de la rue Laval.
Mais... Exact.
Ah oui, la petite rue Laval, tout
voilà,
belle.
Voilà. Et pour la petite histoire, mais le mot Vespasienne vient de l'empereur romain Vespasien. Au 1er siècle, il avait instauré une taxe sur la collecte d'urine humaine dans les toilettes publiques romaines parce que l'urine avait plusieurs usages à l'époque, notamment dans le tannage du cuir, la teinturerie et même dans le lavage des textiles.
Ah oui?
Ouais, ouais. Et la pratique avait d'ailleurs donné naissance à l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ».
Oh, ben oui, c'est tout à fait logique.
Tout à fait.
Et maintenant, vous passez à quatre expressions et non quatre expressions.
Quatre expressions, tout à fait. Bailler aux corneilles. Bailler aux corneilles, c'est une déformation de bailler. B-A-Y-E-R. Donc, c'est pas bailler, c'est bailler.
Bailler aux corneilles.
Bailler aux corneilles. Bailler, ça veut dire, c'est plus très utilisé comme verbe, s'étonner, être bouche bée. Bailler.
Ah oui.
Alors, ça vient d'où? Pourquoi on dit aux corneilles, bailler aux corneilles? Faut remonter au 16e siècle. Le mot « corneille » pouvait, à ce moment-là, désigner un objet insignifiant, sans importance, parce que la corneille était vue comme un oiseau qui n'était pas digne d'un grand intérêt.
Non.
Non, c'était plutôt méprisé, la corneille. On disait « voler pour corneille », pour dire « chasser un gibier sans valeur ». Donc, « bailler aux corneilles », ça voulait dire « rester la bouche ouverte devant une chose sans intérêt ». Un signe d'ennui, quoi. Mais comment on est passé de bailler à bailler? Ben, c'est probablement à cause de la prononciation qui n'est pas si lointaine des deux verbes et de l'idée plutôt semblable, hein, véhiculée par les deux expressions, parce que bailler aux corneilles, ça veut dire rêvasser, perdre son temps à rien faire.
Ah, OK.
C'est dans le même sens, finalement. C'est assez proche. Voilà.
Bailler aux corneilles. Ouais. Corneille, un gibier sans valeur. C'est pas fin, ça, pour la
non,
corneille?
Non, c'est pas fin pour la corneille.
Non, puis pour l'auteur corneille, c'est autre chose.
Ah, ça, c'est pas sans intérêt.
L'auteur du cidre. Malgré que moi, j'ai... Oui, le cidre de corneille.
Le cidre de corneille.
Mais je me souviens, j'avais vu le cidre de corneille, j'avais 15 ans, et j'avais peut-être un peu bailli au corneille.
Oui, ouais, enfin, ouais, à 15 ouais, ans, ça
ouais,
se comprend.
Oui, mais je m'en souviens toujours de cette expérience où il y avait de l'ennui, mais il y avait aussi une espèce de fascination. Alors, on retourne à nos moutons. Attire l'arigot.
Attire l'arigot.
Ça n'a rien à voir avec la ville de Rigaud. Là.
On ne dit plus ça bien, attire l'arigot, mais non. Ça existe. Ça veut dire faire quelque chose à l'excès, attire l'arigot,
ah,
surtout
oui.
Lorsqu'on parle de boire ou de manger.
Ah, j'ai bu attire l'arigot.
Voilà. Et il y a deux hypothèses qui existent sur l'origine de l'expression, qui nous renvoie aussi à la fin du Moyen Âge. Le Moyen Âge est à l'honneur ce matin. Et au fait de boire, mais pas nécessairement de l'alcool. Au 15e siècle, d'une part, le larigot désignait un petit verre en forme de flûte, comme l'ancêtre de la flûte à champagne, finalement. Alors, boire à tire-larigot, ça voulait dire vider son larigot d'un seul trait.
Cul-sec.
Cul-sec. L'autre hypothèse viendrait de la cathédrale de Rouen, au 13e siècle, où se trouvait une cloche extrêmement lourde qu'on nommait la Rigaud.
Ah,
comme là, on... c'est en revenant de Rigaud.
Oui, 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 R-I-G-A-U-D.
Voilà. Et les sonneurs de la cloche, qui étaient épuisés d'avoir tiré sur la corde, devaient boire à tire-larigot pour se remettre de leur effort.
Ici, tire-larigot, larigot, c'est L-A-R-I-G-O-T. Et,
oui, O-D. D.
Hein?
D comme rigot.
Ben, c'est écrit G-O-T.
Non, mais la rigot, la cloche s'appelait la rigot.
Oui, oui, je sais, mais
c'est ça,
mais
on a
gardé dans l'expression tire-larigot, s'écrit
exactement.
L-A-R-I-G-O-T.
Tout à fait.
Est-ce que vous me suivez?
Chers auditeurs, petit.
Bon, chatouiller la queue du dragon.
Meriez-vous ça, là?
De qu'est-ce?
C'est dangereux comme activité, hein? C'est très risqué, surtout lorsqu'on réalise que ça nous vient des physiciens nucléaires, cette expression-là. Le dragon, ici, il est fait d'uranium, de plutonium, de courbes de flux neutroniques. Demandez-moi pas de vous en expliquer plus, mais on sent le danger Chatouiller sa queue, ben, c'est mener les expériences où l'on s'approche du seuil critique, où survient la perte de contrôle sur la réaction en chaîne de la fission de l'atome. Alors, c'est dangereux. Je ne peux pas vous en expliquer plus. Je n'ai pas les compétences pour ça. Mais ça vient définitivement de ces expériences. Et en passant, l'expression existe aussi en anglais. Ça se dit « tickling the dragon's tail ».
Donc, serait quoi, un anglicisme?
On ne sait pas laquelle des deux est arrivée en premier. Enfin, l'histoire ne le dit pas. Il faudrait peut-être que je pousse mes recherches plus loin. Donc, c'est l'équivalent français. « Tickling the dragon's tail ».
Chatouiller la queue du dragon. Et vous terminez avec une interjection.
Oui. Si je vous dis « oyez, oyez ».
Oui.
Là aussi, hein, ça nous ramène loin en arrière. Ça s'écrit « O-Y-Z ». C'est la deuxième personne du pluriel de l'impératif présent du verbe « ouïr », « oyez ». Et on a déjà vu la forme « oyez », « O-Y-E », dans certains textes, mais c'est une faute de français, ça n'existe pas. Et pour l'anecdote, bien, la Cour suprême des États-Unis, figurez-vous, emploie encore cet appel en français pour entamer ses travaux.
C'est chic.
Alors, eux le disent trois fois. « Oyez, oyez, oyez ». All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States of America, blah, 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 blah.
Oyez, oyez, oyez.
Au Corneille.
Oyez au Corneille, c'est ça.
Oui, et vous terminez avec un beau mot.
Une petite dernière, oui, mais ça, c'est c'est pas une expression, mais c'est un nom composé.
Un mot valise?
Oui, bon, on peut dire
d'une
ça
certaine
aussi.
Façon.
Savez-vous comment se nomme une petite mèche de cheveux ramenée sur la joue?
Mais c'est ce que j'ai présentement.
Un accroche-cœur.
Oh, c'est donc cute, c'est donc joli.
C'est ce que je disais, c'est tout mignon.
Oui, accroche-cœur. Je connaissais l'attrape-cœur, mais l'accroche-cœur, non.
Voilà.
Et c'est sur ce joli mot, André, qu'on vous dit pas adieu, mais ce n'est qu'un au revoir. À bientôt.
À bientôt.
On se retrouve le 21 juillet. Ça va aller vite, comme d'habitude.
Ah, ouais, comme d'habitude.
Mais bonne Saint-Jean. Profitez de tout. Au plaisir.
Au revoir.
Piano signé Rousseau de son nouvel album, son plus récent, intitulé Bonbon. Hein, c'est ça, Mathieu?
Oui.
Merci.
Je vais vérifier, parce que je ne voulais pas...
Oui, la chronique économie s'en vient avec Michel Poitvin dans quelques minutes.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Poitvin est là au bout du fil. Bonjour, Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Michel, vous parlez d'inflation, l'inflation qui est en hausse au Canada pour le mois de mai, pour ouvrir votre chronique, c'est le sujet.
Ben oui, on a annoncé les nouveaux chiffres d'inflation pour le mois de mai. Peut-être sans surprise, l'inflation s'est accélérée. Là, on était à 2,8% en avril sur une base annuelle toujours. On est maintenant à 3,2%, quand même une hausse de 0,4 de point de pourcentage. Au Québec, on est passé de 3 à 3,6%. Donc, l'inflation s'est accélérée, mais en même temps, on s'inquiète pas trop. Pourquoi? Parce que le mois de mai, on est en pleine guerre avec l'Iran. Et puis, le prix de l'essence a augmenté de 33%, ce qui a fortement contribué à la hausse de l'inflation générale. Mais il n'y a pas juste l'essence, l'alimentation aussi, 4,3%. Puis c'est un peu relié aussi à la guerre en Iran. Le prix des engrais a augmenté, le transport et tout. Donc, ça affecte aussi le prix des aliments parce qu'ils ne viennent pas tous de notre petit jardin à l'arrière. Mais c'est le 16e mois où l'inflation alimentaire est plus élevée que l'inflation générale. Là. C'est quand même... la nourriture, ça coûte malheureusement de plus en plus cher. Donner un petit exemple là, qu'on citait dans le journal, le prix des tomates a bondi de 45% sur une base annuelle.
45.
Les tomates, il y en a beaucoup qui viennent du Mexique. et puis ont eu des conditions de culture difficiles au Mexique, c'est la première chose. Puis deuxièmement, le président Trump a mis des tarifs sur les tomates mexicaines. Alors, les fermiers mexicains ont décidé de, en partie, là, évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir, mais ont réduit, si vous voulez, la superficie cultivée pour les consacrer aux tomates. Et alors, donc, ça réduit l'offre de tomates, puis ça fait augmenter le prix. Là, on espère, avec la chaleur qui nous arrive, qu'on va avoir des belles tomates locales à un prix abordable.
Oui, des tomates qui goûtent les tomates, là. Habituellement, ça arrive au mois d'août.
C'est ça. Ouais. Donc, on va voir. Peut-être l'autre bonne nouvelle, c'est que la guerre en Iran, elle a cessé. Là, pour combien de temps, on ne le sait pas, mais il y a quand même eu un accord de signer, puis il y a des pourparlers qui prennent place. Puis le détroit d'Ormuz est réouvert. Là,
mais là, dernièrement, on l'avait fermé, là, me semble.
C'est ça, mais on négocie encore. Donc, je suis assez confiant qu'il va être réouvert s'il n'a pas déjà été réouvert. Là, effectivement, à l'Iran, je pense à la fin de la semaine dernière ou en fin de semaine, avait annoncé qu'il le fermait.
Bon, on se croise les doigts pour qu'il rouvre.
Exactement. Mais pour montrer que les marchés sont optimistes, là, le prix du baril de pétrole a baissé à 77 $. Avant la guerre, il était à 60. Donc, on est encore en haut du 60. Par contre, pendant la guerre, on a dépassé le 130 $ le baril. Là, on est à 77. Alors, ça nous laisse supposer que le prix de l'essence, du transport, de l'énergie va baisser. Puis peut-être qu'on espère que les chiffres d'inflation pour le mois de juin, là, qui est presque terminé, soient meilleurs que ceux de mai. Donc,
d'accord.
Ça va être à suivre.
Oui, comme souvent vous le dites.
Oui, c'est ça. Ben, oui. C'est une histoire sans fin.
Ainsi va la vie.
J'ai encore du travail avec vous. Ça ne finit jamais.
Oui, ça ne finit jamais. Vous vouliez nous parler de la bourse, Michel?
Mais oui, on n'en a pas vraiment parlé. Vous avez fait pas mal les manchettes, là, si vous vous souvenez, il y a deux semaines, SpaceX, là, la compagnie de Elon Musk, ouais, faisait une entrée en bourse. Donc, c'est une compagnie qui était financée par des capitaux privés. Puis là, on décide de faire appel à ce qu'on appelle l'épargne publique. Donc, on met des actions disponibles pour le public. Donc, les gens peuvent devenir, entre guillemets, propriétaires de SpaceX en achetant une action. Donc, cette entrée-là en bourse, c'était vendredi le 12 juin. Peut-être juste avant de parler ce qui s'est passé, là, pour bien sûr être sûr de ce dont on parle, SpaceX, il y a toute la division espace, là, les fusées qui retournent sur la planète mises en orbite de satellites d'Elon Musk, mais il y a aussi Starlink, là, qui est une compagnie profitable. Elle a déployé un réseau de satellites, là, au-dessus, à basse altitude, pour donner de l'Internet aux gens qui n'ont pas le réseau filaire comme on pourrait avoir, les antennes et tout. Donc, c'était l'Internet donné par satellite. Puis il y a aussi l'ex-Twitter qui s'appelle maintenant X, là, qui est sous le chapeau de SpaceX. Donc, ce sont principalement ces trois divisions-là, l'espace, Starlink et X. Donc, il y avait une folie, là. On avait décidé de mettre en vente les actions à 135 $ américains, ce qui était déjà énorme. Mais là, il y avait tellement de, excusez-moi l'anglicisme, de buzz ou de folie. Il y a eu une demande excédentaire. Donc, c'est pas tout le monde qui a pu acheter la première émission parce qu'à 135 $ il y a un certain nombre d'actions qu'on met en vente, mais la demande dépassait le nombre d'actions. Mais là, une fois que SpaceX est coté en bourse, les gens peuvent transiger, puis rapidement, le prix, je pense, dans la même journée, a augmenté à 225 $ Donc, ce que certains ont payé à 135 le matin, ils auraient pu le vendre à 225 en après-midi. Mais depuis, ça va moins bien. Là, je pense qu'il y avait beaucoup de spéculation là-dedans. À la clôture, hier, le prix était revenu à 157 $ Puis tout à l'heure, je surveillais juste avant la chronique, là, puis il a peut-être même encore bougé depuis, mais on était à 148. Donc, le prix baisse. On se rapproche du prix de 135, puis ce ne serait pas étonnant même qu'on aille plus bas que le 135 dans les prochaines semaines. Mais tout ça, ça évaluait la compagnie SpaceX à 2 billions de dollars. Alors, billion, c'est 1 000 milliards ou 1 million de millions de dollars. Ce qui n'est quand même pas des peanuts.
Non, c'est loin d'être des peanuts. C'est beaucoup de peanuts, en tout cas.
C'est ça, mais c'est très spéculatif parce que dans les compagnies que j'ai nommées, X, on ne sait pas trop si ça fait de l'argent. On a l'impression que non. Là, souvenez-vous, Elon Musk avait payé une fortune pour acheter Twitter. Starlink est profitable, mais SpaceX, là, la division espace, là, ça aussi fait également des pertes, mais il y a quand même une technologie derrière ça qui était très novatrice. Avant, la NASA dépensait des centaines de millions à envoyer une fusée dans l'espace, on perdait la fusée, puis Elon Musk a eu l'idée de dire, ben là, si on les envoie dans l'espace, peut-être qu'on devrait les ramener puis les réutiliser. Ce qui est bon aussi pour l'environnement. Là. On gaspille pas une fusée à chaque fois qu'on envoie un satellite. Donc, je pense qu'il y a un bon chiffre d'affaires, mais ils font quand même des pertes. Les coûts sont très élevés.
Et puis, on a un petit peu de temps, Michel, pour aborder le taux d'intérêt directeur américain. La semaine dernière, vous en aviez parlé, le taux d'intérêt directeur américain qui devait être annoncé le lendemain de votre chronique. Alors, que s'est-il passé? Bien.
Mercredi dernier, le 17 juin, bien finalement, tel qu'attendu, on avait parlé, là, les experts s'attendaient à ce que le taux ne change pas, puis c'est ce qui est arrivé. Puis le nouveau gouverneur, là, Kevin Warsh, a pas cédé aux pressions du président, là, parce que le président l'a nommé en espérant qu'il baisse les taux. Là. Je pense qu'il avait même fait un peu son plaidoyer, Kevin Warsh, pour avoir l'emploi, que dire que lui, il pensait qu'avec l'intelligence artificielle, la productivité augmenterait beaucoup, puis on pourrait baisser les taux d'intérêt. Bien là, il les a pas baissés. Il y a eu la guerre en Iran. L'inflation aux États-Unis est assez élevée. Là, les derniers chiffres étaient la placés à 4,2%. Il a résisté à ça. Et puis peut-être fait nouveau, là, quand je pense que j'en parlais la semaine dernière, de regarder un peu les mots, parce que souvent on fait une annonce, mais de la façon qu'on l'annonce, ça peut laisser présager ce qui va se passer pour le futur. Lui, il a vraiment joué son rôle de banquier assez muet. Là. Il a simplement annoncé, voici, le taux directeur ne change pas, puis il n'a pas laissé entendre ce qui se passerait pour le futur. Donc c'est ça. Donc les taux américains sont stables. Si la guerre en Iran arrête et puis l'inflation diminue, est-ce qu'il va être tenté de baisser? Probablement. On verra ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Un autre, on verra.
Oui, on verra. J'ai regardé, Hormuz, vous aviez raison, le trafic continue malgré l'annonce iranienne d'une refermeture du détroit. Okay. Alors, c'est une vraie saga, cette histoire-là.
Oui, on n'est pas au niveau du trafic qu'on avait avant la guerre, mais ça a repris.
Oui. Et en terminant, Michel, le Canada veut augmenter le nombre de réacteurs nucléaires au pays?
Oui. Au Canada, on a 17 réacteurs nucléaires en activité en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Puis ça fournit 13% de l'électricité au pays. La stratégie du Canada en matière d'énergie nucléaire a été dévoilée lundi, donc hier. Et puis, on veut augmenter significativement le nombre de réacteurs. On veut avoir 10 nouveaux réacteurs de grande taille en opération d'ici 2050 pour doubler la capacité. On en veut... Ah, pardon. C'est ça, 10 d'ici 2050, 2 d'ici 2035, puis 5 autres qui devraient être planifiés là, ou mis en construction d'ici 2040. Ça pourrait coûter 100 milliards de dollars ou plus. On ne dit pas comment on va les financer, mais en même temps, l'énergie, on peut la vendre. Là, donc, ça attire quand même des revenus. On peut mentionner que... au Canada, on produit énormément d'uranium. On est le deuxième plus gros producteur d'uranium au monde. On a 24 % du marché. Puis évidemment, pour le nucléaire, ça prend de l'uranium. Ça se trouve surtout en Saskatchewan. Et puis, on a quand même une technologie canadienne, CANDU, là, qui est utilisée dans plusieurs réacteurs ailleurs dans le monde. Les États-Unis ont 94 réacteurs. Là, si on veut se situer, nous, on en a 17. En Chine, il y en a 61. Puis en France, si vous vous promenez en France, on en voit régulièrement sur les routes. Là. La France en a 57. Moi, je pense que c'est une bonne idée. On a toujours des craintes pour le nucléaire, mais c'est quand même, si elle est bien encadrée, bien conçue, une énergie qui est propre par rapport à brûler des énergies fossiles. Je pense que c'est une bonne voie à aller, d'après moi, là, pour augmenter notre production d'électricité.
Merci pour cette chronique, Michel, et on vous souhaite une belle Saint-Jean, une bonne fête nationale.
Il faut s'en souvenir, je me souviens. Alors,
j'espère bien. Il faut fêter aussi. Célébrons. Oui. À bientôt.
À la semaine prochaine. Au revoir.
il fallait pour subsister, serrer les dents et les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. En mangeant un morceau de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme un million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger serrer les dents et travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Puis un jour, il a rencontré une femme qu'il a mariée, sans pour cela se demander si du moins il pouvait l'aimer. Comme un million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants, pour subsister, serrent des dents les poings fermés. Mais autour d'eux, il y aura plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Comme un million de gens qui pourraient se rassembler pour être beaucoup moins exploités et beaucoup plus communiqués, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Mais autour d'eux, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans.
Claude Dubois et sa chanson « Comme un million de gens ».
Oui, ça nous fait plaisir de savoir qu'il est en forme, Claude Dubois, lui, qui a subi des opérations parce qu'il a eu un cancer à une ou deux cordes vocales ou plusieurs, je ne sais pas. Mais là, il va bien et on l'entendra ce soir. Il va participer à la fête nationale en direct des Plaines d'Abraham. Le spectacle commence à 19h30 si vous y êtes. Et sinon, à la télévision, ce sera diffusé, on dit, en direct à 21h30. Ah oui, parce que les festivités commencent à 19h30 et le spectacle, lui, commence à 21h30. Claude Dubois y sera. Lou-Adrienne Cassidy, comme je l'ai dit, Gab Bouchard, Marie-Mé et plein d'autres artistes. Allons y maintenant avec la chronique livre, un petit peu plus tôt aujourd'hui, en compagnie d'Anne-Marie Aubin, qui a lu deux titres jeunesse en lien avec l'actualité. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors, vous commencez par très beau titre et ça nous dit quelque chose, ça, l'été de la pluie.
Ben justement, parce qu'on a eu beaucoup de pluie et puis que c'est un été très particulier qui débute pour l'héroïne. Et je dédie cette chronique à une amie.
Ah oui.
Que j'ai connue étudiante et avec qui j'ai gardé contact et qui habite à Saint-Hyacinthe et qui a perdu la semaine dernière sa fille, qui a vécu un drame, là, un accident de bicyclette en finissant son secondaire. Alors, dans ces deux livres-là, il est question de ça et j'ai tout de suite pensé à elle quand
Quel cauchemar.
J'ai lu ces livres-là.
Ouais, on en a parlé dans l'actualité, cette petite fille.
Oui.
Qui est décédé, qui a été frappé par un camion lourd.
Ah oui, et traîné sur 200 mètres, c'est affreux, juste d'y penser, c'est épouvantable. Alors, dans cette histoire, Élise Turcotte, qui a écrit « L'été de la pluie », c'est un roman graphique, on peut dire ça, merveilleusement illustré par Caroline Merola. Et il est question d'un souvenir qu'elle nous relate dès le début du livre. Avant même le récit, elle nous dit qu'un jour, elle a loué une maison. Elle était en vacances dans une maison. Puis, derrière, elle a découvert un petit cimetière. Et puis, en enlevant la végétation, elle a vu qu'il y avait un enfant qui était enterré là. Donc, c'était comme un cimetière familial. Et puis, tout à coup, elle s'est mise à imaginer la vie de cette petite fille. Et comme ça est née l'héroïne de ce livre-là qui s'appelle Alexina. Et qui vient de perdre sa grand-mère, qui est morte à la fin de l'hiver, et qui, a laissé un certain nombre de choses dans la maison. Puis, dès que les vacances débutent, elle s'en va avec son père et sa tante, qui sont les enfants de la grand-mère, et qui font le ménage, parce que la maison a besoin de soins. Et elle s'ennuie un peu. On sent que le deuil de sa grand-mère n'est pas fait, puis que de se retrouver dans cette maison qui a été un peu laissée à elle-même, elle se reconnaît plus, elle trouve que c'est pas des beaux souvenirs pour elle. Alors donc, elle va chercher à à explorer dehors, à faire autre chose parce qu'elle s'ennuie vraiment. Et puis là, ben, c'est là qu'elle va découvrir le petit cimetière derrière la maison. Puis elle n'en parle pas à son père parce qu'il dit « je veux pas que tu y ailles là ». Et alors, je la cite, elle dit « je n'aimais plus la campagne, ni la musique que produisait la vieille maison le soir venu. Je m'ennuyais, je me sentais perdue. C'était un sentiment étrange, nouveau et mouillé, comme cet été où il pleuvait presque chaque jour. » Ben ça, c'est ce qu'on a connu depuis le début de l'été. Alors, là,
mais l'été a commencé le 21 juin, là, ça fait pas longtemps, mais depuis le début du printemps, on dirait.
Là, c'est pas un très bel été jusqu'à maintenant, mais il faut pas se plaindre parce qu'en Europe, il meurt de chaud.
Oui, puis aujourd'hui, il fait beau, puis demain, il va faire beau. C'est vrai qu'on ne crève pas de chaleur et on n'arrête pas de chialer de toute façon.
Le vent va tourner. Alors donc, son père, à un moment donné, l'accompagne alors qu'elle va dans le petit boisé. Et puis, elle lui dit, je sais pas ce qu'il y a là, il y a une clôture, c'est plein d'herbes. Lui, il va aller avec elle, désherber. Et c'est à ce moment-là, en lisant les épitaphes, qu'elle va découvrir la tombe de Mary, 4 ans, 1 mois, 8 jours. Et là, je la cite, j'ai regardé mon père et je me suis mise à pleurer. Peut-être que je retenais mes larmes depuis trop longtemps. J'ai pleuré. Mes larmes ont mouillé la terre autour de la tombe de la petite fille. Alors, cette découverte va ouvrir les valves pour la petite qui va amorcer une étape importante de son deuil. Et là, peu à peu, elle va revenir au cimetière, imaginer la vie de cette petite fille-là, la prendre comme une petite sœur. Puis elle dit, je la cite, « Je revenais au bois pour partager ma peine avec Mary. » Et elle se dit, « Bon, ben, si je restais, peut-être qu'elle serait moins seule. » Puis finalement, sa grand-mère va lui apparaître. Bref, c'est un peu fantastique. Il y a des images qui peuvent paraître un peu gothiques. C'est très beau. Le livre est imprimé sur du papier épais, presque du carton. Les illustrations sont dans le noir qui tire sur le bleu, parfois sur le gris. C'est noir et blanc. Et puis, bon, ben là, elle va apprendre d'où vient cette petite fille-là, puis pourquoi il y a un cimetière familial. Et puis, bon, ben, c'est une écriture évidemment poétique à la manière de l'autrice Élise Turcotte qui nous habitue à des très beaux textes. Le texte est bref. C'est quelque chose de très réussi que je conseille à tout le monde qui vit un deuil ou qui veut en parler avec une jeune personne. Mm-hmm. Il y a très peu de textes. C'est très court. Ça se lit très bien. C'est abondamment illustré. Et c'est un très beau format, comme les livres de la Bagnole en général.
Bon, c'est triste, mais il y a de l'espoir.
Oui.
L'été de la pluie. C'est Élise Turcotte, comme vous le disiez si bien, et illustrée par Caroline Merola, publiée aux éditions La Bagnole. Autre livre, le titre, c'est Clang, C-L-A-N-G, point d'exclamation, par Carole Tremblay.
Oui, ça, c'est dans la collection Micro. C'est une collection qui se destine aux adolescents qui ont à peu près 12-17 ans, qui ne sont pas des grands lecteurs. Puis c'est des textes qui sont forts, qui, je dirais, témoignent vraiment de grandes émotions, sont touchants. Et dans ce cas-ci, ben, on voit sur la page couverture un vélo, la tête en bas, parce qu'il est évidemment question d'un accident de vélo qui va changer la vie du personnage. Alors, tout débute alors qu'il est en colère. C'est un jeune adolescent qui est allé à un party avec un ami. Il n'avait pas envie d'aller à ce party-là. Il ne connaît pas le gars en question, mais son ami il voulait rencontrer une fille. Puis il dit, viens avec moi, conduis-moi, puis comme ça, je vais pouvoir la rencontrer. Puis bref, il s'est fait prendre dans une affaire. Puis là, ben, il s'ennuie, il s'emmerde, il décide de partir. Il est en colère. Et puis bon, ben, il ne voit pas un vélo qui passe. Il frappe, il panique complètement. Alors, c'est un monologue de tout ce qui se passe écrit au jeu dans la tête du héros qui a à peine son permis de conduire, il y a 18 ans, il avait commencé à aller au cégep, ça commençait à aller mieux dans sa vie, il y avait même une fille dans son regard là, qui zieutait, comme on dit. Et ben, Carole Tremblay réussit très bien à rendre le sentiment de panique qui va s'emparer de lui. Parce que quand arrive l'accident, il fuit. Au lieu de descendre, voir si la personne est blessée, appeler des secours. Non, non, il court. Ben, en fait, il file en voiture jusqu'au chalet de ses grands-parents. Et là, il sait où est la clé. Il rentre dans le chalet. On est en octobre. C'est le soir. Il n'est pas tout à fait 11 heures. Il fait froid. Là, la panique le prend. Il s'empare. Il se dit, je vais aller en prison. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Là, tout passe dans sa tête à un rythme complètement fou et c'est très, très bien rendu. Et là, ben, qu'il se dit, qu'est-ce que je fais? Puis son téléphone sonne, c'est son ami qui dit, ben, où est-ce que t'es? Je te cherche, il faut que je rentre. Il est à pied, finalement. Puis là, ben, lui, il faudrait là, qu'il aille sur place vérifier. Si... Et on se demande qu'est-ce qu'il va faire, là, pris dans ce chalet-là, la nuit. Alors, je cite un passage. C'est fou comme on s'en fait des accrocs quand on ne veut pas regarder la réalité en face. L'esti de réalité que je suis un lâche, un gros lâche sale, que je me suis quasiment pissé dessus, puis que je me suis sauvée de rien. Au contraire, je me suis juste peinturée dans le coin. Non seulement je conduis tellement mal que j'ai frappé un gars, mais en plus, j'ai même pas eu le courage. Qu'est-ce que j'ai la décence de m'arrêter pour voir s'il était correct? Je suis là, tout seul dans le bois, le plus gros pissou de l'histoire de l'humanité, à me pogner la tête à deux mains puis à manquer d'air assis sur un vieux sofa qui sent le moisi. Tout ça parce que j'étais trop occupée à trouver tout le monde con pour regarder en avant de moi pendant que je conduisais. Bon, alors ça dit un peu qu'il s'en veut, qu'il regrette, qu'il y a des remords, mais il n'a pas le choix parce que il est trop en panique pour reprendre le volant. Puis bon, il va finir par se calmer, il va finir par retourner sur les lieux, appeler une ambulance, et bon, on va lui dire, moi, il y a déjà quelqu'un qui a appelé. Et entre-temps, son ami, qui est tout seul, lui écrit et lui dit, ben, j'ai trouvé quelqu'un pour me conduire, là, panique pas, là, je sais pas ce qui t'arrive, mais te connaissant, là, je suis inquiet. Il est inquiet de son ami qui, on comprend, c'est quelqu'un qui s'inquiète facilement, qui angoisse facilement, qui a beaucoup d'anxiété par rapport à tout. Et là, ben, il imagine le pire, qu'il va en prison, puis tout ça. Et là, bon, on va voir comment ça se déroule, puis c'est quoi la loi dans une telle situation, puis qu'est-ce qu'on devrait faire, mais qu'il n'a pas fait. Bref, c'est un texte très touchant, très poignant sur le doute, le déni face à un problème, puis la lucidité qu'il a en même temps, puis comment il se juge sévèrement, beaucoup trop. Et ça arrive parfois. Et c'est comme ça, souvent, que des jeunes adolescents ne connaissant pas tout ce qui concerne ce problème-là, bon, ben, panique et voit pire que ce que c'est. Mm-hmm.
C'est bref, l'expérience
ça,
de la vie.
Ça se termine très bien.
Ça se termine aussi, bien aussi, vous dites?
Oui, je ne veux pas te dire comment ça se dénoue, mais se dénoue bien. Je peux juste dire que la personne qui l'a frappé est très connue des policiers parce que c'est quelqu'un qui conduit souvent en état d'ébriété.
D'accord.
Alors, il a pris le fossé une couple de fois, mais c'est comment tout ça va se dénouer à la fin. C'est heureux, c'est une belle conclusion. Et ces deux textes que je conseille pour un début de vacances.
Parfait. Qui vont Klang aux éditions La Courte Échelle par Carole Tremblay et L'été de la pluie, on vous le rappelle, aux éditions La Bagnole. Klang, c'est aux éditions La Courte Échelle. Merci Anne-Marie. Bonne journée. Bonne fête nationale.
Demi-tour en enfance.
Ariane Moffat, qui sera en spectacle ce soir, Veille de la Saint-Jean, à l'île Perrault, au parc Michel-Martin. Alors, si ça vous intéresse, je suis certaine que vous allez passer du bon temps en sa compagnie. Restez là pour parler du livre sur Harmonium et Serge Fiori.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être plein d'amour parce que c'est plein de fou tout partout. Comme si on avait tous peur de se dire qu'on a du mal à naître, à se regarder mourir. T'offrir une place qui te ressemble, un lieu qui grandit même si parfois nos mains tremblent. Pour la première fois l'hiver serait moins gris, la neige pourrait rester blanche sur toi et mon pays.
Oui, on arrête ici, malgré que ça nous aurait fait plaisir de continuer d'écouter cette chanson magnifique qui fait partie de l'album Leptade, Prélude à l'amour comme un sage. Mais on a envie de parler avec Danny Trottier, qui signe le livre Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'Harmonium. Bonjour, Danny Trottier.
Bonjour et merci de me recevoir ce matin.
Ça nous fait très plaisir. Vous êtes musicologue, professeur titulaire de musicologie à l'Université du Québec à Montréal notamment. Être musicologue, Danick Trottier, ça veut dire quoi? Ça implique quoi?
Ça implique qu'on étudie d'abord la musique dans des perspectives qui peuvent être à la fois historiques, sociales, esthétiques. Et donc, le musicologue, comme par exemple le sociologue pour la société ou le psychologue, évidemment, pour la psyché humaine. Donc, nous, on étudie la musique. Et ça peut être l'expliquer aussi par les genres musicaux. Hein. Et c'est pour ça qu'Harmonium est une formation si intéressante. Harmonium a une évolution dans les genres musicaux incroyable.
Et vous, Danick Trottier, bien avant d'écrire ce livre-là, votre rapport à Harmonium et à Fiori, quel était-il?
Ah, alors, le tout a commencé pour moi dans les années 90, alors que j'étais adolescent. Je suis de la génération qui a suivi celle d'Harmonium. Donc, j'ai découvert Harmonium autour des feux de camp, dans les activités, surtout l'été, dans les Saint-Jean. Et Harmonium est très vite devenu pour moi une voie de pour apprécier un Québec plus rock, alors que ma culture rock était plus anglophone à l'époque, forcément. Évidemment, je revenais à des groupes comme Pink Floyd, Genesis. Et quand j'ai découvert qu'on avait un groupe l'équivalent au Québec, qui est Harmonium, alors là, ça fait le coup de tout de suite, et puis ça ne m'a jamais quitté par la suite. Et j'intègre aussi, évidemment, Harmonium dans mon enseignement à l'université parce que c'est un groupe incontournable. C'est un groupe qui nous permet de parler autant de rock progressif que de parler de la contre-culture, des idéaux des années 70. Donc, c'est un groupe qui est à la marge à la confluence de tellement de réalités.
Alors, vous enseignez Harmonium depuis quelques temps, mais ce livre-là est né, je crois, à la suite, le 24 juin 2025, vous le racontez, vous vous rendiez à Radio-Canada pour parler de Jean du Pays de Vigneault, dont on soulignait, je crois, le 50e anniversaire?
C'est très juste. Et je sors de Radio-Canada, je m'en vais à mon café, là, pas loin de l'ICAM, et quelqu'un annonce que Serge Fiori est décédé. Comme plusieurs, au début, j'étais incrédule. J'ai cru un canular. Ça se peut pas. En plus, la journée de la Saint-Jean, c'est comme pas possible. Et effectivement, donc j'ai eu à me rendre à l'évidence, pardon. Et il se trouve que j'avais déjà écrit sur Harmonium parfois dans l'espace public où j'avais déjà fait des interventions sur Harmonium. Alors là, j'ai été sollicité par plusieurs médias. J'étais dans un tourbillon médiatique que j'ai apprécié par ailleurs, mais je sentais que j'avais pas dit tout ce que j'avais à dire parce que j'étudie la musique d'Harmonium depuis quelques années. Et donc, l'occasion s'est présentée pendant une année qui était pour être une année sabbatique pour moi, puisque je n'avais ni enseignement ni tâches administratives. Et donc, j'ai pu écrire ce livre, me plonger à fond là, dans la musique de Fiori et d'Harmonium.
Mais ça donnait bien quand même cette année sabbatique-là. Vous n'avez pas pu vraiment vous reposer, mais vous avez écrit sur Harmonium, sur Serge Fiori. Et comment vous présentez votre livre? Ce n'est pas une biographie, c'est un ouvrage de musicologie. Est-ce que ça s'adresse à certaines personnes qui ont des connaissances universitaires? Quelle clé de compréhension vous vouliez offrir au lecteur sur Fiori et Harmonium?
C'est une excellente question. Comme musicologue, c'est sûr que j'ai été formé à écrire plus des monographies scientifiques. Mais là, je rassure, ce n'est pas une monographie scientifique. Donc, j'ai voulu vraiment écrire un livre qui peut rencontrer un large public, très vulgarisé au niveau des connaissances. Alors oui, c'est sûr que je vais dans mon coffre à outils de musicologue, je développe certains concepts et puis j'explique la nature de ces concepts-là, mais je le fais toujours de façon, je pense, très vulgarisée, très facile à comprendre. D'ailleurs, c'est un livre qui se lit quand même assez rapidement. Oui. Il tourne autour de 4 chapitres. C'est un livre qu'on peut facilement traverser en 2 journées. Là,
et 124 pages.
Oui, tout à fait, 124 pages, donc ça vous montre que c'est pas une biographie critique exhaustive là, qui pourrait faire 500, 600 pages, on n'est vraiment pas là. Et je le dis d'ailleurs, j'apporte une pierre à l'édifice que constitue la connaissance d'Harmonium, donc il reste d'autres pierres à ajouter. Il va y avoir d'autres études dans les prochains mois qui s'en viennent, alors moi c'est un jalon. Et je relance aussi, j'ai voulu relancer les études sur Harmonium parce qu'il n'y en a pas beaucoup et j'estime qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur Harmonium encore, toute l'évolution stylistique de Fiori, pourquoi cette musique-là n'est pas encadrée avec la réalité québécoise des années 70. Donc, je m'attarde vraiment aussi au contexte. Le contexte était très important pour moi. Et surtout, je ne fais pas toute la vie de Fiori. Alors là, absolument pas. Je m'arrête à la fin des années 70. Donc, pour moi, la grande période importante, là, c'est les années 70.
Oui. C'est pendant les années 70 que les trois albums d'Harmonium sont nés.
Oui, exactement, oui. Les trois albums originaux. Il y en a eu un dernier qui est le double album de 80 qui est Harmonium en tournée, mais c'est différent, c'est l'heptade enregistré en concert. Mm-hmm. Quand on parle d'Harmonium comme groupe original, on parle de trois albums, 74, 75, 76, dont le dernier qui est l'heptade, le double album en 76. Donc, vous imaginez à quel point c'est une créativité incroyable qui a émergé en si peu de temps. Donc, oui. C'est tout à fait exceptionnel dans notre histoire.
Et vous parlez d'album concept. Ça veut dire quoi, ça, un album concept, en ce qui concerne les trois albums là, de 1974, 75 et 76?
L'album concept est d'abord une conception d'un album autour d'une idée qui unifie l'album. Ça peut être une idée qui est à la fois dans le texte. Les textes peuvent se répondre ou créer comme une narration. Ou ça peut être aussi dans la pochette de l'album avec une idée suggérée. Ou ça peut être dans les enregistrements avec l'idée d'unifier le son de l'album. Les albums concept, ça vient de la tradition anglophone anglo-américaine. Sgt. Pepper's, par exemple, des Beatles en est un. Dans le cas de Harmonium, l'album de 74 s'appelle Harmonium et pour moi, c'est un album manifeste. La première chanson s'appelle également Harmonium. Donc, c'est un groupe qui se dit, ben voici, nous existons et nous faisons de la musique en harmonie. Donc, c'est l'idée de l'harmonie sociale, l'harmonie musicale qui est derrière cet album. Ensuite, le deuxième, si on avait besoin d'une cinquième saison, ben là, c'est très clair. On traverse l'idée de quatre saisons qu'on connaît déjà, mais il y a une cinquième saison qui est imagée, qui est la saison de l'imaginaire, qui est finalement la pièce Histoire sans parole, qui est magnifique. Et enfin, le double album Le Tad, ben là, c'est le chiffre 7 qui est mis à l'avant-plan avec les 7 niveaux de conscience. Et c'est pourquoi on a 7 chansons principales sur l'album. Et donc, chaque album se tient autour d'une idée forte chez Harmonium, et ces idées-là vont marquer évidemment l'imaginaire de l'époque.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a un album qui se démarque davantage d'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort, qui est meilleur?
Ça, c'est une question qu'on aime beaucoup me poser, et j'aime beaucoup y répondre en même temps, parce que je vais sortir un petit peu, disons, des idées reçues. On va souvent dire que le summum d'Harmonium, c'est l'heptade. Ouais. Et j'adore aussi à cette idée, parce que c'est un double album, c'est la fin. Bon, ça va tellement loin avec le crescendo final, qui est comme un sage qu'on a entendu tantôt, donc je trouve ça très beau. Mais personnellement, depuis que je suis jeune, je suis très attaché à l'album, si on avait besoin d'une cinquième saison.
Ah oui, le deuxième.
Le deuxième, parce qu'il est très instrumental, Histoire sans parole, pour moi, c'est un bijou. C'est comme une petite symphonie, hein, Histoire sans parole. Et c'est le tournant très instrumental qu'a pris Harmonium à partir de cet album-là. Dixie, Depuis l'automne, Vert, ça reste des chansons qui m'habitent. Donc, alors, autant j'aime beaucoup l'heptade, autant j'aime toujours rappeler que si on avait besoin d'une cinquième saison, c'est un album incroyable. Et c'est l'album le plus célébré, soit dit en passant, au-delà du Québec. Dans le monde anglophone, quand on va parler des grands albums qui ont marqué la culture rock progressive, ça va toujours être l'album de Harmonium qu'on va choisir.
Alors, Danick Trottier, on n'écoutera pas Histoire sans parole parce que c'est 17 minutes et combien de secondes?
Et 30 secondes environ, de mémoire.
On va écouter Dixie pour célébrer l'été, puis on va revenir avec vous. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de cette chanson-là. Puis on a d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous embarquez?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
C'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même temps comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta toune qui me revient comme le soleil tout le temps? Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps. We'll be right back.
nouvel album « Si on avait besoin d'une cinquième saison », on écoutait Dixie. C'est peut-être un des rares succès commerciaux qu'on a entendu beaucoup à la radio, Dixie, d'Annick Trottier.
Tout à fait. Hein? Ça, c'est un élément qu'on a discuté aujourd'hui à imaginer, mais Harmonium, à la base, c'est pas un groupe de tubes. C'est pas un groupe de chansons qui ont énormément tourné à la radio. En fait, quand on se pose la question, on peut en nommer trois. On peut nommer Dixie pour un instant, puis un musicien parmi tant d'autres.
Ouais.
Il arrive parfois que d'autres chansons vont aller à la radio, mais c'est plus rare. Si on compare, par exemple, avec Beau Dommage, c'est une série de tubes, d'album en album. C'est vraiment très différent. Harmonium nous a laissé plus des albums qui s'apprécient sur le long terme, des albums complets, et Fiori s'opposait souvent à une logique commerciale qui aurait privilégié le tube à l'époque ou le 45 tours. Donc, il pensait vraiment son travail artistique autour d'albums.
Et la musique prend énormément de place dans toutes les chansons. Celle-là, bon, il y a des paroles, mais vous parlez tantôt de histoire sans paroles. Est-ce que vous diriez que les paroles comptaient moins pour la formation, pour Serge Fiori?
Ah, ça, c'est une question très, très, très intéressante. Alors, il y a toujours une opposition en musique populaire, surtout rock, là, à partir des années 60, qui va opposer le texte versus la musicalité. Bon, est-ce qu'on a besoin absolument d'un texte? Ben, si on est en chanson, oui, ça le dit, une chanson, normalement, il y a un texte. Mais il se trouve que même en musique populaire et surtout rock, on a toujours développé de la musique instrumentale, n'est-ce pas? Et parfois, on a opposé deux traditions dans le Québec, mais aussi en Occident, là, dans les années 60. On a mis d'un côté plus une tradition folk, puis qui a été aussi également une tradition de chansonnier, où le texte prend toute une valeur, par exemple chez Félix Leclerc, Gilles Vigneault, versus une tradition qu'on a dit plus rock, yéyé, avec un texte qui prend moins de place et plus une musicalité.
Mm-hmm.
Bon, ce sont des oppositions qui sont simplistes, il faut faire vraiment attention. Dans le cas d'Harmonium, je vous dirais qu'il y a une évolution, puis c'est très compliqué. Le texte a une importance chez Harmonium. Quand vous prenez, par exemple, la chanson Harmonium pour un instant, ou vous pouvez en prendre une autre comme un musicien parmi tant d'autres, ce sont des textes très forts là, au niveau des significations. Il y a l'idée de réunion, de jouer ensemble, de s'écouter. Donc, il y a quand même, le texte est important. On ne peut pas dire qu'il n'est pas important. C'est seulement que Harmonium, à partir de Si on avait besoin d'une cinquième saison, donne toujours une importance au texte, mais commence à développer une musique très instrumentale. Et l'instrumental devient aussi important que le texte.
Mm-hmm.
On vient de l'entendre dans Dixie. Dixie, la moitié de la chanson est chantée, puis l'autre moitié, ce sont des parties, des interludes avec différents instruments.
Ah oui, c'est
donc,
très riche.
C'est très riche, exactement. Donc, Harmonium, il ne faut pas opposer texte et musique, il faut plutôt voir comment le texte a une importance, mais comment la musique elle-même aussi a une importance, raconte une histoire. Donc, je sais que ça peut paraître abstrait de se dire une musique raconte une histoire, mais une musique a une narration, une musique a une continuité, la musique épouse une logique dans laquelle on peut très bien embarquer comme auditeur. Et je vous dirais enfin que l'album Leptade montre pour moi l'équilibre entre les deux. Leptade, les textes sont très riches. Il y a énormément de textes dans Leptade. C'est l'album d'Harmonium qui contient le plus long en termes de texte. Et pourtant, il y a aussi des parties très instrumentales. Il y a des arrangements de Neil Schottem. Donc, disons que c'est Harmonium. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut voir les deux en complémentarité.
Et Danick Trottier, vous diriez à la question suivante quoi exactement? Quelle est l'histoire principale que raconte Harmonium, que raconte Serge Fiori?
L'imagination, l'ouverture vers l'imaginaire, ce qui est très beau parce que l'imaginaire, c'est ce qui, évidemment, enfante l'art en général. Hein? L'imaginaire, c'est ce qui nous permet d'imaginer des romans, imaginer évidemment des pièces de théâtre, bon, de la musique, etc. Mais chez Harmonium, il y a tout un imaginaire qu'a pensé Fiori, l'imaginaire du musicien, le musicien au centre de tout, l'imaginaire de la nouvelle saison, c'est celle de la cinquième, l'imaginaire de comme un sage, donc le fou qui devient sage. Donc, la portée de l'imagination de Fiori traverse toute la production d'Harmonium, et c'est une imagination qui est sans limite, sans borne. C'est l'idée que l'être humain peut accéder à une forme de transcendance. Mais la transcendance n'est pas obligée d'être spirituelle, elle peut être aussi sur Terre, dans l'idée de rêver mieux, de faire quelque chose de différent. Évidemment, il y a des idéaux de l'époque qui vont résonner avec cette vision de Fiori, que ce soit les idéaux nationalistes, les idéaux de la contre-culture, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça pour moi qui marque vraiment la contribution également de Fiori.
Vous évoquez la relation presque fusionnelle entre Fiori et son public. Comment vous l'expliquez?
Ah, je l'explique par le fait que on est d'une part dans une époque où le showbiz québécois est très, très, très orienté vers la musique. Donc, c'est le cas également des Diane Dufresne, des Jean-Pierre Ferland. Donc, on est à une époque où la vedette en musique là, joue un rôle de premier plan. Donc, déjà, ça joue énormément. Mais je dirais aussi que Fiori était un des très jeunes musiciens de l'époque à avoir autant de succès. Et très jeune, donc il ralliait beaucoup les jeunes qui se voyaient en lui. Et il portait tellement un message fort dans ses chansons. Il avait une communion sur scène, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je vous invite à consulter des fois des images sur YouTube. Il y a des archives là, sur YouTube là, qui sont sorties ces derniers temps. On voit Fiori qui s'adresse à son public, mais il est d'une sensibilité à fleur de peau. Donc, le public adhère à cette sensibilité-là. Puis, il y a quelque chose, une chimie qui se crée lors des concerts d'harmonium. Donc, c'est pour ça que le public l'aimait tant. Et c'est pour ça que ça va être lourd à porter pour lui. Imaginez, des fois, il revenait chez lui, puis il y avait des gens qui l'attendaient. En bas, ou parfois même des gens dans son appartement qui étaient rentrés dans son appartement puis qui l'attendaient. Donc, l'effacement entre vie privée et vie publique va devenir tellement fort que ça va finir par étouffer Fiori.
Oui, ça, c'est le côté sombre de l'histoire.
Oui, exactement, et exactement.
L'héritage, vous parlez d'héritage dans votre livre parce qu'il a influencé beaucoup de monde. Serge Fiori, plusieurs musiciens, vous nommez entre autres Daniel Bélanger, les Colocs, Louis-Jean Cormier, Claude Pelgag. Quel genre d'héritage il a laissé à ces artistes-là?
Il a laissé un héritage, d'une part, je dirais, sur le plan musical, un héritage d'une musique travaillée, franchement approfondie avec des thèmes forts. Fiori est un de ceux, à l'époque, avec ses comparses d'harmonium, qui ont voulu faire des textes qui sont une portée un petit peu plus universelle. Quand on regarde les textes d'harmonium dans les années 70, ils ne font pas toujours référence directement à ce qui se passe. Ils sont plus des textes qui ont une portée universelle, sont un peu intemporels. Donc ça, on va retrouver ça beaucoup, par exemple, chez un Daniel Bélanger. Le travail de guitare aussi, les accords de guitare, la richesse des accords de guitare de Fiori, je trouve qu'on les retrouve parfois chez, encore une fois, un Daniel Bélanger, mais aussi un Louis-Jean Cormier, chez Patrice Michaud, chez d'autres musiciens également. Donc, il y a cette touche-là. Et aussi, Fiori a assumé son héritage, ses influences anglophones. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'au Québec, on a tendance à vouloir parfois isoler la musique. C'est normal, on veut la protéger, on veut protéger notre culture. Et là, on en fait une expression particulière, ce qui est bien normal. Mais en même temps, faut pas se couper des influences qui viennent du monde global. Et parmi ce monde global, ben, il y a évidemment les influences anglo-américaines qui sont très importantes. Et en ce sens-là, aujourd'hui, je pense pas qu'il y a de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui ont peur de se revendiquer des influences anglophones. Alors qu'à l'époque, dans les années 70, c'était tabou. Après la période yéyé, les yéyés ont été très critiqués pour ça. Et là, dans les années 70, surtout dans le rock progressif, on ne voulait pas trop nommer les influences alors que Fiori s'en cachait pas. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Donc, je dirais que l'héritage est là. Et enfin, c'est sûr que les chansons d'harmonium m'ont tellement fait rêver qu'il se peut. C'est pas dit, mais je suis convaincu qu'il y en a qui ont décidé de prendre une guitare, qui ont décidé de commencer à écrire de la musique suite à l'aventure d'harmonium. Ça, c'est certain. Harmonium a eu tellement de réverbération dans notre histoire que forcément, il y a eu des carrières qui ont commencé avec Harmonium. Ça, je n'en doute point.
Danick Trotti, c'est passionnant de vous entendre. Demain, on va penser à vous. On va penser, évidemment, à Serge Fiori. Déjà un premier bien anniversaire sûr qu'on soulignera un petit peu partout, j'imagine, dans toutes les célébrations autour de la fête nationale. Je rappelle le titre de votre livre, « Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l'épopée d'Harmonium ». Et c'est publié aux presses de l'Université de Montréal, c'est ça? PUM?
Oui, c'est exact.
Dans la collection La Petite Culture. Et on apprend plein de choses, notamment que Serge Fiori a eu comme premier groupe les Contes Arbaud. J'ai trouvé ça très rigolo. Et je suis même allée écouter les chansons L'Humanité et Jeune fille de couvent. Alors, merci, Danick Trotti. Puis à une prochaine, j'espère.
Ça fait plaisir. À une prochaine.
Un soir, on se regarde dans les yeux. Un soir, on prend un beaucoup toi et deux. On trouve nos vieilles nuits magiques. Parce qu'il n'y a plus de musique qui est pas faite en plastique, comme un ballon qui tourne toujours en rond. On attend la fin du show. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé ce coup-là à faire sauter. Mais comme il reste plus d'effets spéciaux, ils ont
fait sauter le chanteur. Et moi je l'ai manqué. Je regardais un haut-parleur. Il est tellement gros, tellement plus gros que son cœur.
L'écouterai encore longtemps et longtemps. Je vous souhaite de l'écouter au grand complet, puisqu'il faut se laisser ici. C'est 200 nuits à l'heure, un extrait de 200 nuits à l'heure. Fiori Séguin, dansez, dansez. On se retrouve après-demain. Bonne Saint-Jean.